Bonjour. Comme chaque premier mercredi de mois, qu'il soit 12h30 ou 17h30, nous nous retrouvons pour l'émission Claire d'Étoile. Aujourd'hui, cette émission sera présentée par Denis de l'association Claire d'Étoile. Bonjour Denis.
Et par Françoise, également de Claire d'Étoile. Bonjour Françoise.
Comme à chaque fois, nous présenterons d'abord un bref panorama de ce qu'il sera possible de voir dans le ciel, à l'œil nu ou aux jumelles, dans le mois qui vient. Puis nous ferons un focus consacré aujourd'hui au paradoxe de Fermi. Je sens qu'il y a de l'extraterrestre là-dessous. En attendant de tout nous révéler sur ce paradoxe, Denis, que verrons-nous dans le ciel nocturne au cours de ce mois de mai ?
Les cieux du mois de mai ne sont pas forcément les plus riches de l'année. Et de plus, les nuits commencent à être courtes. Néanmoins, il y a toujours de quoi grandement s'occuper.
La Lune, les planètes, les étoiles filantes. Tiens, parlons de la Lune. C'est une valeur sûre, puisque en l'espace de 28-29 jours, elle présente toutes ses phases. Nouvelle Lune, premier quartier, pleine Lune et dernier quartier. Et ce qu'on oublie parfois, c'est qu'elle se trouve alternativement au plus près, puis 14 jours plus tard, au plus loin de la Terre. Son orbite autour de nous n'étant pas un cercle parfait, mais une ellipse. D'ailleurs, coïncidence intéressante, la dernière pleine lune, celle du 27 avril, correspondait à un passage au périgée. C'est ainsi que les astronomes appellent le passage au plus près. Cette coïncidence s'appelle une superlune, ou, pour certains journalistes en mal de copie, une lune rose quand il s'agit de la première superlune de l'année, bien qu'elle ne soit pas rose du tout.
En effet, j'ai lu ces articles. Mais ce phénomène n'est pas si exceptionnel. Il se reproduira le 26 mai et le 24 juin. Cela aura au moins permis aux journaux d'élever nos centres d'intérêt. La pleine lune du 26 mai s'accompagnera d'une éclipse totale. Mais malheureusement pour nous, elle sera peu compatible avec les limites de déplacement, même si elles sont levées à cette date, car il faudrait aller en Amérique ou en Asie pour la voir.
Dommage. Et pour les planètes ?
C'est un petit retour progressif pour Vénus en astre du soir. La fameuse étoile du berger, donc. Mais elle va rester tout le mois assez bas sur l'horizon ouest, avant le coucher du soleil, et jusqu'à une heure après. Plus rare et plus intéressante sera Mercure. Elle est très souvent difficile à observer en Ardèche. Pour ma part, je ne l'ai vue que 2 à 3 fois en 10 ans. Pendant les premières semaines de mai, elle sera visible, juste après le coucher du soleil, à l'horizon ouest, et plus haut que Vénus. À plus d'une dizaine de degrés, soit à la hauteur d'un point fermé, bras tendu au-dessus de l'horizon. Elle sera même à près de 20 degrés le 17 mai. Ne la ratez pas.
Horizon ouest, il va falloir négocier avec les montagnes ardéchoises. Et Saturne et Jupiter, toujours les astres du matin bien sûr.
Oui, et même un peu plus. Elles seront toutes les deux visibles dès 2-3 heures du matin, se levant à l'est, comme il se doit, et se dirigeant progressivement en direction du sud, pour disparaître dans les lueurs de l'aurore. Quant à la pauvre Mars, bien pâle désormais, elle se couche sans éclat aux environs de minuit à l'horizon ouest.
Splendeur et décadence martienne. Nous aurons aussi en mai un essaim d'étoiles filantes, les Aquarides.
Elles portent ce nom car elles semblent provenir de la direction de la constellation du Verseau, Aquarius en latin. Pour la trouver, c'est la constellation dans laquelle se trouve Jupiter. Autant dire qu'on les verra donc de préférence en fin de nuit, ce qui est une règle d'ailleurs pour les étoiles filantes. Cet essaim est moyennement important, 30 à 40 météores par heure. Il est formé par les résidus de la comète de Halley.
Eh bien, ce n'est pas si mal. Espérons que la météo soit favorable. Il est temps de passer au focus. Nous allons donc traiter le paradoxe de Fermi. Il se trouve que je le connais un peu. Cela concerne les visiteurs extraterrestres, n'est-ce pas ? Nous voilà en pleine science-fiction.
Oui et non. Tout d'abord, il convient de rappeler qui était Enrico Fermi, qui n'avait rien d'un auteur de science-fiction.
En effet, c'était un physicien et même un très grand physicien. On lui doit le premier réacteur nucléaire, des travaux importants sur l'énergie nucléaire et il a reçu un prix Nobel en 1938 pour ses travaux sur la radioactivité. Il fut un brillant chercheur en physique nucléaire et en mécanique quantique. Tout donc sauf un aimable plaisantin.
Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce fameux paradoxe sur les visiteurs, ou plutôt l'absence de visiteurs extraterrestres qu'on lui attribue.
Il tient en trois mots. Où sont-ils ? Et la réponse n'est pas si simple. D'ailleurs, pourquoi parle-t-on de paradoxe ?
Auparavant, précisons le contexte. Il a pour origine une discussion entre Fermi et plusieurs de ses collègues lors d'un déjeuner tenu aux alentours des années 1950, alors qu'ils étaient occupés à concevoir la bombe à hydrogène à Los Alamos. La conversation portait sur les ovnis, qui commençaient à défrayer la chronique aux États-Unis et que l'on soupçonnait déjà d'être des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Fermi était un redoutable calculateur. Il lui fut facile d'évaluer le temps qu'il faudrait à une civilisation croissant dans la galaxie selon une loi exponentielle pour en coloniser toutes les étoiles, et cela même en se déplaçant à une infime fraction de la vitesse de la lumière.
Une civilisation croissant dans la galaxie selon une loi exponentielle. Peux-tu être plus précis ? Je ne vois pas bien ce que cela veut dire.
Fermi envisageait une civilisation intéressée par la conquête de la galaxie et dotée de moyens techniques pas très éloignés d'une autre, du moins à 100 ou 200 années près, et maîtrisant le voyage interstellaire, même à une vitesse nettement inférieure à celle de la lumière. Une telle civilisation serait capable de coloniser une planète pour la transformer en nouvelle base de départ, chaque cycle nécessitant quelques centaines ou milliers d'années et permettant d'avancer par bonds successifs, plus ou moins loin dans l'espace de quelques dizaines d'années-lumière. Sachant que notre galaxie a un rayon d'environ 50 000 années-lumière, une vitesse globale du front de colonisation à 1% de la vitesse de la lumière suffirait à la coloniser entièrement en quelques millions d'années.
Quelques millions d'années seulement ? Mais c'est énorme !
À l'échelle humaine, certes, mais ce n'est qu'une très faible fraction de la durée d'une planète, et même de l'âge de la vie sur Terre. Et l'on n'en parle ici que d'une seule civilisation.
Et à combien de civilisations potentielles pensait Fermi ?
Au moins des milliers. Il savait que notre galaxie compte environ 200 milliards d'étoiles et supposait, nous savons aujourd'hui que c'est plus que probable, qu'il y avait au moins autant de planètes. Même en supposant qu'une planète sur un million puisse abriter une vie intelligente, cela en fait plusieurs centaines de milliers dans notre seule galaxie. De plus, le Soleil est une étoile relativement jeune. Une grande majorité des étoiles de la galaxie sont nées bien avant lui, ce qui laisse du temps pour développer des civilisations élaborées qui nous auraient précédés. Donc nous aurions dû être visités. Et Fermi se demandait pourquoi nous n'avons vu personne.
C'est donc cela le paradoxe. La probabilité que de nombreuses civilisations aient eu le temps de se développer et d'atteindre un savoir technique leur permettant d'explorer toute la galaxie est très élevée. Et pourtant, nous n'en avons aucune trace.
C'est magnifiquement résumé.
Merci. Mais comment résoudre ce paradoxe ? Parce qu'à part quelques délires soucoupistes, c'est vrai, on ne les voit pas beaucoup, les extraterrestres. Alors, ils n'existent pas, ils ne peuvent pas voyager, ils n'ont pas envie de venir nous voir, ou bien ils se cachent.
Tu as assez rapidement résumé les principales hypothèses émises pour expliquer leur absence. Un astrophysicien américain, Michael Hart, classe les explications en quatre grandes catégories. La première est que la probabilité d'apparition d'une civilisation technologiquement avancée soit très faible, si bien qu'un univers de la taille d'une autre est nécessaire pour qu'elle ait une chance de se produire une fois, mais beaucoup moins probablement deux. Donc nous serions les seuls.
Une sous-catégorie de cette explication est aussi que toute civilisation atteignant un haut niveau technologique comme la nôtre, finit par s'autodétruire ou, suite à une catastrophe écologique, militaire ou technologique, à retourner à la barbarie. Au vu de ce que l'on peut voir, ce n'est pas si improbable.
Deuxième hypothèse. Il se peut que les extraterrestres existent, mais que pour une raison ou une autre, ils ne jugent pas souhaitables les communications et les voyages interstellaires.
Ce sont peut-être des sages qui préfèrent cultiver leur jardin.
Troisième hypothèse. Il se peut que la vie existe ailleurs, mais en des lieux rendant sa détection difficile. Par exemple, dans des océans protégés par une couche de glace, ce qui leur interdit aussi par ailleurs l'idée d'aller explorer leurs cieux.
C'est une variante forcée de l'hypothèse précédente.
Il se peut enfin que les extraterrestres existent et nous rendent visite, mais d'une manière indétectable avec les moyens techniques actuels.
C'est la théorie du zoo, les extraterrestres étant pour nous ce que nous sommes pour les fourmis d'Amazonie. Ils nous observeraient à distance, évitant d'entrer en contact afin de ne pas nous perturber.
Chacune de ces hypothèses a été souvent discutée, analysée et sous-pesée par les scientifiques. Et il en existe de très nombreuses variantes qui font le bonheur des auteurs de science-fiction. Citons une variante à l'hypothèse du zoo, la thèse d'Arthur Clarke dans son roman 2001, dont a été tiré le film éponyme 2001 Odyssée de l'espace. Les extraterrestres sont venus sur Terre à l'aube de notre civilisation et y ont laissé quelques machines, les fameux monolithes noirs, destinés à stimuler notre développement.
Le sujet a déjà fait couler beaucoup d'encre et généré des milliers d'heures de cinéma et de vidéos. Il n'est sûrement pas prêt de toucher à sa fin. Ce qui touche à sa fin, en revanche, c'est cette émission. Donc, rendez-vous pour le mois prochain. En attendant, vous pouvez toujours nous adresser questions et remarques à partir des formulaires de contact de notre site qui se trouve assez facilement en tapant « Clair d'étoiles Ardèche » dans n'importe quel bon moteur de recherche. À bientôt et merci Denis.
Merci Françoise.